je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin dans 2 Corinthiens chapitre 4. Et nous abordons la troisième leçon, donc nous serons sur la page 7 de notre cahier. Nous avons fait quelques cahiers supplémentaires, j'espère que chacun a son exemplaire maintenant pour pouvoir suivre. Il est vrai que je ne suis pas strictement le cahier. On développe les idées ici, on lit quand même à peu près le texte, mais c'est encore plus essentiel de lire la parole elle-même. 2 Corinthiens chapitre 4, donc c'est dans cette série le prix d'un ministère efficace. Quand on dit le mot ministère, ça s'applique à tous les enfants de Dieu. Il est vrai, comme Jérémie nous l'a rappelé hier, il y a des ministères qui prennent beaucoup de temps. Conduire un troupeau, s'occuper des détails d'organisation, d'enseignement, former des disciples, s'occuper de la structure d'une église, il y a de plus en plus de démarches administratives aussi. C'est un ministère qui demande tellement de temps qu'il est absolument souhaitable d'être à plein temps. Mais malheur à l'église où le responsable est le seul à avoir un service. Si les gens viennent uniquement pour chauffer des chaises, on va dire pour consommer du culte, c'est bien dommage. Ne vous prenez pas pour moins que vous n'êtes. Si nous sommes sauvés, c'est que Dieu peut se servir et veut se servir de nous. Les dons spirituels sont les capacités que l'Esprit a données à chacun de ses enfants pour le service. Un don spirituel, c'est pour être mis en œuvre. Une bonne question que nous devrions nous poser tous de temps à autre, s'il faut prendre une feuille de papier, qu'est-ce que je fais pour Christ? Honnêtement. Peut-être même plus loin, combien de temps cela me prend-il sur une semaine ou sur un mois? Le travail, mettez tout, je fais le ménage, une fois par mois, ça me prend 2h30, c'est un service pour Jésus-Christ. Je témoigne, temps et temps, je participe, j'enseigne les enfants, ça me prend tant de temps en préparation à la maison, plus le temps que je fais à l'église. C'est pas mauvais de parfois noter des choses et puis, ou alors on se dit, ben, ma feuille reste vierge. Je croyais faire, mais finalement, je ne fais rien. Je ne peux pas dire une seule chose que je fais pour le service du Christ. Donc, mes dons spirituels n'ont pas été utilisés, n'ont pas été employés depuis tant de mois, tant de semaines, tant d'années. Il faut remédier à cela. Dieu nous a appelés à servir. Donc, le ministère efficace, puisque nous sommes tous appelés à servir, comment servir efficacement? On a vu donc hier une attitude de cœur, le vase brisé, donc le chrétien qui ne compte pas sur lui-même. Il n'est pas dans la logique, je fais ce travail parce que j'ai les dons et je suis capable et vous savez, je sais faire. Ce n'est pas du tout sa pensée. Il dit, je fais ce travail et je veux faire ce travail parce que je compte sur Dieu. C'est lui qui m'a donné la capacité. Je veux le faire humblement et pour sa gloire. Je ne veux même pas compter sur moi-même pour faire ce travail. Je veux que ce soit Dieu qui le fasse à travers moi et non pas moi qui le fais pour lui. C'est tout à fait différent comme mentalité. Le vase brisé. Puis on a vu aussi quelle est notre manière, notre motivation, quelle est notre attitude quand nous voulons aider les autres. Est-ce que c'est le ministère de la loi? Souvenons-nous, les 10 commandements n'ont absolument rien de mauvais. Vous êtes d'accord avec moi? Les 10 commandements sont tout à fait honorables. Le seul défaut, c'est que personne ne peut les observer. Donc, au fond, les 10 commandements est un instrument de condamnation pour le pécheur que nous sommes. Comme nous n'avons pas pu obéir aux 10 commandements et qu'on a dû avoir recours à Jésus-Christ pour nous sauver, de même, nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne aujourd'hui selon la loi, parce qu'on est encore incapable. On a besoin de la vie de Jésus-Christ continuellement pour nous permettre de vivre pour Christ. Si c'est vrai pour moi et pour toi, pour chacun d'entre nous, quand nous conseillons les autres et quand nous devons reprendre les autres, évitons de faire selon la loi du Mont Sinaï. Tu dois rendre des comptes à moi et je vais te surveiller et tu dois, etc. Et on va les mettre dans la condamnation. Ils ne pourront pas arriver à nos exigences. Mais leur dire, cherche la face de Dieu. Demande à Christ de t'aider. Vis de sa vie. Compte sur sa force, pas sur la tienne. Et donc, ne pas les mettre sous la loi, mais sous la grâce. Et donc, ce matin, c'est des motivations dans nos cœurs quand nous voulons servir Dieu. La question de motivation est très importante. Quand nous avons commencé ce camp, tout à fait au début des années 80, j'étais aux États-Unis à ce moment-là, et j'ai rencontré le responsable qui a fondé une énorme colonie de vacances. Cette colonie n'a fait que grandir, et ils accueillent quelques 10 000 enfants au cours de l'été. C'est quelque chose d'énorme. Et il m'a dit, c'est un homme très occupé, je dis, est-ce que je peux avoir l'entretien avec vous? Il dit, oui, mais je ne vous accorderai que 10 minutes. Il dit, ce que j'ai à vous dire se tient en 5 minutes. Je dis, bon, c'est merveilleux. En 5 minutes, il va me donner l'accumulation de sa sagesse. C'est extraordinaire. Et donc, on s'est assis, il a dit, il y a 4 choses. Alors, en anglais, ça fait les P. Il y a d'abord la philosophie. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le personnel. Avec qui allez-vous le faire? La troisième chose, c'est le programme. Qu'allez-vous faire? Et la quatrième chose, et ça c'est loin derrière les 3 autres, c'est où vous allez le faire, la place ou l'emplacement. Il a dit, si vous avez une bonne philosophie pour votre travail, si vous avez du bon personnel, si vous avez un programme intéressant, vous pouvez faire une excellente colonie de vacances, centre d'hébergement, enfin, sans hébergement, le CF, vous savez, le camp du jour, sur un parking à Chicago, il a dit. Le lieu est indifférent. C'est pourquoi faites-vous ce que vous faites. C'est ça qui est le plus important, votre philosophie. Ici, arrivé en France, bien sûr, nous avons commencé nos centres de vacances et on est allé pour le BAFD, pour le directeur de centre de vacances, et le jury composé de directeurs de centres de vacances et d'inspecteurs de la jeunesse et des sports nous pose cette question. Quel est votre projet éducatif? Qu'est-ce que vous voulez enseigner à ces enfants? Nous faisons l'innocent, mais on veut qu'ils passent de bons moments à la campagne, on a un endroit formidable, il y a de l'air, c'est agréable, il y a une eau pure, c'est bien, on veut qu'ils jouent, on veut qu'ils s'épanouissent, on veut qu'ils passent de bons moments. Ils ont dit, c'est pas pour ça que vous faites ce camp. Mais non, ils font. Vous avez un message à faire passer. Quel est votre projet éducatif? Qu'est-ce que vous voulez enseigner à ces enfants? Ils ont dit, tous ceux qui font des centres de vacances doivent faire passer des valeurs aux enfants. Soit les joies de faire de la voile, soit la découverte du milieu naturel par des randonnées, soit la joie de faire du vélo. Il y a toujours une raison pour laquelle vous faites des centres de vacances. Vous avez une valeur à faire passer. On a dit, ben on ne peut faire passer des valeurs bibliques. Ah ben voilà! Voilà, maintenant, vous le dites, c'est très bien, mais pourquoi vous faites ce que vous faites? Donc, Paul ici, il dit, pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait auprès de vous? Quelles étaient mes motivations? Et on va le voir dans ces 12 premiers versets. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Dans le verset 18 que nous lisons également, le verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous voyons également donc les choses visibles et les choses invisibles. Le ministère que nous faisons est un ministère invisible. Si vous êtes un maçon, moi, j'aime bien faire un peu de maçonnerie. Et la raison pour laquelle j'aime faire la maçonnerie, c'est que c'est utile. Je n'aime pas trop courir, faire la course à pied. Je sais que j'en aurai besoin, mais je n'aime pas le faire. Parce qu'à la fin, je n'ai rien de visible. J'ai dépensé beaucoup de sueur pour rien. Quand on construit un mur, à la fin de la journée, vous avez quelque chose qui est debout et qui est permanent. J'aime ce qui est visible. Ah, ce n'est pas pour rien. Ah, mais bien sûr, absolument, on le voit physiquement, mais ce n'est pas pareil qu'un mur que tu vois, que tout le monde voit. Hein, c'est... pour ça, c'est des valeurs qui ne sont forcément pas bonnes, mais c'est juste pour illustrer que j'aime bien les choses visibles. Mais le ministère de l'Évangile est un travail invisible. La prière, personne ne la voit vraiment. Le Dieu dont on parle, personne ne le voit. Les progrès que les gens font ne se voient pas comme le nez sur la figure. On voit des changements d'attitude, mais c'est quelque chose qui n'est pas toujours palpable. On ne peut pas le montrer aux passants, regarder comment les gens de mon église ont progressé depuis 3 ans. Les gens de la rue, ils ne voient rien. Je le vois qu'ils sont toujours pareils. Vous faites toujours les mêmes choses dans votre local. Je ne vois aucun progrès. Mais le travail qui se fait est invisible. Mais dans le verset 18 du chapitre précédent, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors, apporter la vie aux hommes, c'est bien sûr apporter l'Évangile. Mais qu'est-ce qui fait le changement? Qu'est-ce qui fait le changement chez ces gens-là? Qu'est-ce qui fait que vous, vous changez? Qu'est-ce qui fait que nous progressons? Dans le verset 18, donc du chapitre 3, on a la clé. Le visage découvert. Il a parlé de Moïse qui mettait un voile. Mais dans l'Évangile, ce voile est ôté. Nous voyons Dieu maintenant en Jésus-Christ. Dans le temple, il y avait un voile. On ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu comme ça. Dieu se fermait des hommes. Il avait bien raison. Il était saint, les hommes étaient pécheurs. Barrière. Mais en Jésus-Christ, ce voile a été déchiré et nous venons dans la présence de Dieu. Et nous sommes face à lui. En Jésus-Christ, le visage est découvert. Alors, nous regardons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Le miroir peut servir à deux choses. Vous avez des miroirs qui sont dans votre salle de bain pour vous regarder vous-même. Puis vous avez des miroirs de surveillance, parfois dans les angles de magasin. Maintenant, on a des caméras, mais très souvent, on avait des miroirs de surveillance. Et quelqu'un placé en certain endroit pouvait regarder dans le miroir, dans les rayons, pour voir ce qui piquait les affaires, les rayons. Et donc, le miroir réfléchit l'image de quelqu'un d'autre. Et ici, le miroir est la parole de Dieu. Le mot miroir est utilisé trois fois dans le Nouveau Testament. Et chaque fois, il s'agit de la parole de Dieu. Et le miroir, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous voyons dans cette parole, dans cette Bible? Nous y voyons la gloire de Jésus-Christ. D'ailleurs, le mot Apocalypse, ce livre qui fait tellement d'intérêt pour les gens, l'Apocalypse, ce mot veut dire le dévoilement. Le dévoilement de la gloire de Jésus-Christ. Et dans l'Apocalypse, on voit Jésus-Christ dans sa gloire. Et cette gloire est dévoilée. Donc, quand on lit le Nouveau Testament, de la Genèse à l'Apocalypse, on voit la gloire de Jésus-Christ dans ce miroir. Alors, nous, on ne regarde pas Jésus-Christ face à face aujourd'hui. Vous ne l'avez pas vu, Jésus-Christ, ce matin. Moi non plus. Mais nous voyons sa gloire dans le miroir de la parole. Et à mesure que nous l'étudions et que nous contemplons Jésus-Christ dans le miroir de la parole, peu à peu, nous commençons à être transformés de gloire en gloire. C'est-à-dire, nous commençons à le glorifier et nous commençons peu à peu à lui ressembler. Nous commençons à devenir davantage comme Christ et moins comme nous étions avant. C'est ça la croissance spirituelle. Et cette transformation, un peu imperceptible mais qui est réelle, se fait par l'Esprit de Dieu. Que se passe-t-il quand on ouvre la Bible ce matin? Si nos cœurs sont sincères, l'Esprit de Dieu est dans nos cœurs. Il est dans notre pensée. Et quand nous lisons la Bible, l'Esprit Saint nous éclaire pour nous permettre de comprendre cette Bible. Mais il peut d'autant plus nous permettre de comprendre cette Bible que c'est lui qui a inspiré les mots qui sont dans cette Bible. Donc lui qui l'a inspiré, il sait exactement ce que dit la Bible. Et c'est lui qui peut nous illuminer pour que nous en comprenions le sens et que cela agisse dans notre cœur et que ça produise du changement. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? On nous demandait. Paul, pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi annonces-tu la parole de Dieu? Il dit, mais j'annonce la parole de Dieu parce qu'on y voit la gloire de Jésus-Christ, et si les gens fixent leur regard sur Jésus-Christ, ils vont être métamorphosés, ils vont commencer à ressembler à Jésus-Christ, et j'aime tellement le Seigneur Jésus que je veux que tous les gens lui ressemblent. Vous savez, quand les jeunes sont mariés, et puis ils s'aiment tendrement, et puis ils ont un enfant, chaque époux est très heureux de voir des traits de visage dans son enfant qui lui rappelle son conjoint. Combien de femmes vont dire « Ah, mon petit, il a le nez de son père. » Puis elle dit ça avec fierté, parce qu'elle aime son mari et elle aime voir la génétique de son mari dans son enfant. Et l'homme va dire « Mais il a les yeux de sa mère. » Ça, ça me plaît parce que j'aime les yeux de sa mère et je suis content que mon enfant ressemble à sa mère. Et nous, on aime Jésus, on est heureux de voir toutes les personnes qui ressemblent à Jésus. Et on finit par ressembler à Jésus en étudiant dans sa parole. Donc, il dit, voilà, ce travail de transformation de vie, c'est le ministère que je fais. C'est ce que dit Paul. Et donc, si on veut avoir ce résultat, si nous voulons, par notre témoignage, faire en sorte que les gens commencent à ressembler à Jésus-Christ et progressent spirituellement, Dieu a des exigences pour nous. Alors, il y a des obstacles à ce ministère, il faut les enlever. Il dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Ce sont des choses honteuses qui se font en secret, des choses dont on devrait avoir honte, bien sûr. Alors, s'il peut y avoir plein de choses. On a parlé récemment de jalousie, de l'amertume. Si vous trouvez quelqu'un de jaloux, Et vous lui dites, si la personne est jalouse de vous, et vous dites tout de go, est-ce que vous êtes jaloux de moi? Est-ce qu'elle va dire oui? Mais non, elle ne va pas dire oui, elle va dire, mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu vas chercher? Comment? Jaloux de toi, mais quelle idée? Alors qu'ils sont, ils sont malades de jalousie envers vous. La plupart des péchés qui sont très graves, on ne les avoue pas. On ne les avoue pas devant d'autres, c'est à peine si on se les avoue à soi-même. Je me souviens d'un frère qui était missionnaire et un homme doué, qui depuis des années avait des difficultés avec Internet parce qu'il regardait des images immorales. Pendant ses études bibliques, il tombait régulièrement dans ce péché. Pendant son temps de recherche de soutien, il avait des moments de victoire, mais entrecoupés de longs moments de défaite. Arrivé dans son pays de mission, il a continué, il en a parlé au pasteur, le pasteur a essayé de l'aider. Finalement, il a dû quitter le ministère parce qu'il n'en remportait pas la victoire sur ces images immorales auxquelles il était adonné et qu'il trouvait sur Internet ici et là. C'était quoi? C'est des choses honteuses qui se font en secret. Il n'organisait pas les projections d'images au sein de son église. Il n'invitait pas son voisinage à regarder ces images avec lui. Il en parlait à très peu de personnes, uniquement à des personnes quand il était désespéré d'avoir de l'aide. Voyez? Mais quelque chose comme cela enlève la puissance de Dieu. Quelqu'un qui veut prêcher sur la pureté et qui veut vivre la pureté, mais qui dans son âme et conscience et dans son secret particulier et dans sa chambre et dans son intimité et se livre à l'immoralité, ne serait-ce que du voyeurisme, est-ce que l'Esprit de Dieu peut vraiment se servir de cet homme? Non. La puissance de Dieu est coupée par le péché. Et donc, il ne peut pas faire ce travail-là. Il peut faire le maçon. Il peut faire l'électricien. Il peut faire le comptable. Il peut faire plein de choses. Mais il ne peut pas être un serviteur de Dieu efficace s'il laisse perdurer dans sa vie des choses honteuses. Des choses qu'on ne va dire à personne, cachées dans les coins sombres de notre cœur. Paul dit attention. Si on veut apporter la vie aux gens, si on veut aider les gens à être transformés à l'image de Jésus, nous, le canal, le serviteur, nous devons rejeter les péchés secrets. J'ai un frère qui un jour prêché à des pasteurs, c'était un message terrible, les péchés secrets des pasteurs. Alors vous imaginez quand il a annoncé le titre. Les pasteurs commencent à être mal à l'aise. Vous savez, la cravate commence à serrer un peu trop le cou. Les péchés secrets des pasteurs. Mais ils en ont. Ça nous a été mentionné hier soir, la jalousie, l'amertume, l'esprit de compétition, et une foule de choses. Des pensées impures, des images impures. L'ambition dévorante, l'esprit de comparaison, complexe d'infériorité, complexe de supériorité. Aucune de ces choses n'est un crime punissable par la loi. Mais ce sont toutes les choses qui vont enlever la puissance de Dieu dans la vie du serviteur. Alors, il va annoncer un message qui est absolument vrai, mais sans la puissance de Dieu. La plupart des pasteurs, et moi y compris, et je vous prie de croire, on sait ce que c'est que d'œuvrer sans la puissance de Dieu dans notre vie. Et le Seigneur, quand il est attristé, ben, il retire sa puissance et sa bénédiction. Il nous laisse continuer avec nos propres forces. Ça ne produit rien. Une conduite astucieuse. Il dit, nous n'avons point une conduite astucieuse. C'est quoi ça? Mais ça, c'est d'avoir, on dit populairement, avoir un agenda. Bonjour, ça va, frère?
Oui, ça va.
Ça va bien, tu es content?
Oui, 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 oui.
Écoute, c'est formidable que tu sois là.
Ah oui, ben merci beaucoup.
On est vraiment content que des gens comme toi soient là.
Ben, vraiment, c'est trop d'honneur.
Merci beaucoup. Au fait, est-ce que tu pourrais m'aider dans telle ou telle chose? Je suis en train d'écrire, enfin, bon, un empire et j'aimerais que tu sois une pièce maîtresse dans mon empire. Est-ce que ça t'intéresse? Tu vas te joindre à moi et puis on va être en compétition avec ces autres frères là-bas, puis on va leur montrer, on va leur rappeler les gens et puis on va construire une église plus grande que la leur. Qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'un gars doué comme toi, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tous ces compliments? Pourquoi tous ces beaux mots? Il avait un agenda. Il ruse. Je vais passer la pommade pour les recruter, pour les prendre, pour m'emparer d'eux, pour les utiliser. Je vais mettre dans mon organisation, je vais mettre des pions sur la table. Et là, c'est moi qui vais bouger, à droite et à gauche. C'est moi qui vais contrôler ces gens-là. Savez-vous que il y a des gens qui sont dans le contrôle. Ils aiment contrôler les autres. Souvent, ils ont une personnalité absolument magnétique. Ils attirent, et on dirait comme des araignées, vous savez, ils aspirent les gens, et puis, tac, 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 et les gens se retrouvent dans des pions. Et puis, ils donnent l'impression de s'intéresser réellement à chacun. Jusqu'à ce que l'un dise, écoutez, je crois que je vais quitter le groupe, je crois que Dieu m'appelle à autre chose. Mais tu ne peux pas le faire, mais après tout ce que j'ai fait pour toi, il faut que tu restes avec moi, mais là-bas ça vaut rien, c'est ici que ça se passe, il faut que tu restes avec moi. Et, oulala, et on sent une pression et une emprise. C'est astucieux, voyez. Ce n'est pas travaillons pour le Seigneur ensemble. C'est « tu travailles pour moi, tu es dans mon organisation, tu fais ce que je te dis ». Alors on peut y mettre toutes les formes qu'on veut, mais c'est astucieux, c'est une ruse. L'astuce, ça va être « il faut que tu me donnes tes ressources, toi tes capacités, toi tu m'apportes ta connaissance, et on va, et voilà, c'est moi qui décide où on va vers cet objectif, et vous marchez en rang là, et on en avance. » Alors ça se fait tout en douceur, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui commence à se remuer un peu trop. Tu marches, tu rentres dans le rang, on avance. Et tout à coup les gens se sentent embrigadés. C'est le propre des sectes, des gourous qui attirent les gens en leur parlant de combien ils sont merveilleux et vous avez des ressources, recherchez le divin en vous et on va vous aider à vous réaliser pleinement, on a votre intérêt à cœur. Une fois qu'on est dedans, on se sent embrigadé dans une secte. Au début c'est tout charme et après c'est le contrôle de plus en plus sur la pensée, sur la manière d'être, sur tout. Tout y passe. Et on sent qu'on est dirigé par une main de fer vers un objectif. Paul, s'il avait dit, bon, j'ai fondé l'église à Corinthe, Priscille et Aquilas, ils font des tentes, je vais m'incruster chez eux, ils vont me financer, comme ça je vais avoir de bosser, puis moi je vais aller ici, et je vais essayer de subordonner les gens de cette synagogue, puis je vais aller là-bas, j'ai chopé quelques fidèles de là, je vais me bâtir une église, puis je vais les contrôler, je leur écris des lettres, et puis il faut qu'ils m'envoient des dons, et comme ça je vais me financer pour aller ailleurs, et une fois que j'aurai beaucoup de financement, je mets tout ça à la banque, et puis là je finis avec une belle retraite. Ça aurait une conduite astucieuse. C'est quand on a un agenda caché qu'on ne veut pas montrer aux gens. Mais on a une idée, comme on dit, derrière la tête. C'est pas innocent. C'est rusé. Et nous n'avons pas cette conduite-là. On n'a pas des choses derrière les scènes. On ne met pas de visage, côté rue, côté cour, non. Ça arrête l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas des calculs. Et puis, nous n'altérons pas la parole de Dieu. Changer la parole, la modifier, piéger les gens en mélangeant la vérité avec des éléments de fausseté, Aujourd'hui, on a une phrase qui revient souvent dans les milieux évangéliques, malheureusement même les milieux évangéliques. Vous savez, prêcher ce message-là, prêcher sur cette doctrine, faut pas trop le faire parce que, vous savez, c'est un message qui ne passe pas. Là, les gens, ça leur reste à travers la gorge. Il y a beaucoup de pasteurs et de responsables en France qui disent, mais qui le disent honnêtement, et j'en ai entendu beaucoup. Moi, je n'aime pas trop parler d'argent parce que c'est un message qui ne passe pas. Je suis d'accord avec eux. Parler d'argent, on n'a pas besoin de parler d'argent. Mais de parler de notre responsabilité, de soutenir l'œuvre de Dieu, parler de la libéralité, comme la Bible en parle, et tel que la Bible en parle, et aussi souvent que la Bible en parle, nous avons le devoir d'avancer tout le conseil de Dieu. Et si on dit, je vais prêcher, tout ce que je prêche, c'est vrai. Je ne vais pas mélanger de l'erreur dans dans la vérité. Je vais prêcher uniquement la vérité, mais je ne prêcherai pas toutes les vérités, parce qu'il y a des vérités que les gens ne reçoivent pas. C'est une conduite, ça c'est altérer la parole de Dieu. Si par exemple, on disait, prêchons les 10 commandements, mais enlevons la partie, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Parce que là, on travaille avec des hommes qui sont dans l'immoralité, alors je vais passer sur ce commandement, je vais leur prêcher, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, parce qu'il n'y en a aucun qui vole, qui n'y tue, mais je ne vais quand même pas leur prêcher cet autre commandement, sinon ils vont penser que je les vise et je ne veux pas sentir, j'ai le sentiment que je les vise, donc je vais éviter, ça c'est enterrer, ne pas dire toute la vérité. Donc, donner toute la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, nous n'avons pas, nous, les messagers, à faire le calcul de quelle partie on va dire. D'ailleurs, une chose qui peut aider beaucoup de pasteurs et de responsables dans les églises, si on veut enseigner tout le conseil de Dieu, c'est de prendre un livre du Nouveau Testament, par exemple, et d'aller chapitre après chapitre, verset après verset. Laissez-moi vous montrer un passage que j'ai eu à faire cette année, en 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 2. C'est vous donner un exemple. Si je devais prêcher sur ce texte-là par un message isolé, je pense que ce n'est pas le premier texte auquel j'irai. J'irai vers Jean 3, 16. Mais 1 Timothée chapitre 2, un texte assez curieux, et on va dire qu'il n'est pas du tout dans l'air du temps, mais regardez ce qu'il dit. Verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Alors imaginez votre pasteur ou votre ancien qui se lève et qui dit « J'ai très à cœur de prêcher sur ce texte, comme ça, de nulle part. » Que vont penser les femmes dans l'assemblée? Ça y est, qu'est-ce qu'on a fait, il nous en veut, et il nous tire dessus à boulet rouge, il prend la parole comme matraque, ça y est, peut-être on a trop parlé, il veut tirer vengeance. Elle peut penser toutes sortes de choses, et on les comprendrait. Alors, ça veut dire quoi? Ah ben ça, je vous laisse réfléchir. Mais, qui peut dire que ce n'est pas dans la parole de Dieu? C'est la pensée du Saint-Esprit sur un sujet bien particulier. Et dans le cadre de notre série sur 1 Timothée, j'étais obligé de parler de ces versets. Et donc, si on prend des livres les uns après les autres, on expose verset après verset la parole de Dieu, on va annoncer tout le conseil de Dieu. Paul dit, je n'ai rien retenu de ce qui vous est étudié. Il a dit aux Éphésiens, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Il insiste beaucoup sur le fait qu'il aura donné toutes les doctrines, toutes les vérités de la pensée de Dieu. Vous savez, on ne dit pas tout à tout le monde, n'est-ce pas? On dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais toutes les vérités que Dieu a données sont bonnes à dire. Il n'y en a aucune qui soit mauvaise. Si une vérité ne passe pas, c'est que dans notre monde, notre mentalité, évidemment, les vérités de Dieu n'ont jamais bien passé. Parfois, on dit, j'espère que le pasteur ne prêche pas tel message parce que je vais amener des amis inconvertis et s'ils prêchent ça, là, ils vont partir en fuyant. Si un pasteur se lève et veut faire de la provocation et il veut blesser les gens dans son église, il peut le faire. Il peut même se servir de la parole de Dieu pour matraquer les gens, mais c'est un mauvais usage de cette parole. Mais c'est étonnant, parfois nous les chrétiens, on pense un ami inconverti, s'il entend telle vérité, ça va le choquer et il ne voudra jamais se convertir. Plus souvent que non, on annonce une vérité et le chrétien est là sur sa chaise. Je regarde sur la... Je crois que... Eh bien l'ami inconverti, il est tout à fait intéressé. Et il trouve bien qu'on dit des choses qu'il n'a jamais entendues. Et il se rend compte qu'on n'essaie pas de lui favoriser, il sent qu'il n'y a pas d'altération. Le gars, il annonce la parole de Dieu en toute simplicité, sans violence, sans calcul, sans édulcorer. Il me dit, mais il annonce la parole de Dieu, je vois bien que c'est écrit, il ne dit pas autre chose que c'est écrit, au moins ces gens sont en accord avec eux-mêmes, au moins ces gens-là ne sont pas hypocrites. Et les inconvertis, ils apprécient beaucoup les gens qui disent la vérité telle que la Bible le dit. Ils ont du respect pour ce genre de démarche. Ils n'ont pas trop de respect pour les gens qui vont arranger leur message pour correspondre à ce qu'ils pensent que l'autre veut entendre. Voyez. Et en fait, aujourd'hui, et de plus en plus, nous avons une mentalité d'assiégés, nous les chrétiens. Comme si le gouvernement et tous les inconvertis étaient contre nous et cherchaient le moindre prétexte. Ils ont dit, il faut limiter le message, il ne faut surtout pas dire certaines vérités parce qu'en République française, ça pourrait mal passer. Édulcorons, arrangeons, disons-le autrement, que ça ne choque pas, que ce soit bien, bien lisse, un message tout lisse, qui passe bien, qui ne choque personne. Mes amis, ça c'est des calculs humains. Si Dieu l'a dit, il faut le dire. Comme Dieu l'a dit. Avec gentillesse, bien sûr, avec respect. Mais le dire. Et le dire honnêtement, comme le Seigneur, sans calculer, sans altérer. Et donc, si le serviteur de Dieu surveille ces choses et les éloigne de sa vie, il va se protéger ainsi que son ministère. Il va, au fur et à mesure que les années passent, il va continuer dans l'honnêteté, dans l'amour, dire ce que Dieu dit. Parfois, aussi, la parole de Dieu est une épée, et les gens pensent qu'il faut qu'ils prennent l'épée et puis qu'ils rentrent, qu'ils triturent, qu'ils coupent, qu'ils tranchent. Et ils vont prendre la bonne épée, ils vont prendre le message de Dieu, mais comme ils ont même une certaine violence en eux, ils sont assez irrités, ils vont taper, ils vont encore taper. La parole est tellement puissante et tellement efficace qu'on n'est pas obligé d'exagérer. On n'est pas obligé d'être violent. On n'est pas obligé d'être agressif. Au contraire, ces vérités parlent d'elles-mêmes. On doit les présenter avec amour, sans hypocrisie, avec joie, dans la paix, comptant sur Dieu lui-même de faire un travail par sa parole. Sa parole agira dans les cœurs. Alors, regardez verset, nous revenons donc à 2 Corinthiens chapitre 4. Satan, versets 3 et 4, Satan a un peu verrouillé la situation. Satan fait une œuvre d'aveuglement. Il brouille les pensées. Vous savez, il y a des gens dans l'espionnage et contre-espionnage, et puis des gens maintenant qui savent brouiller les signaux radio et changer les codes et tout ça pour que les gens qui ne vont pas comprendre ne comprennent pas. Satan fait beaucoup de brouillage. Il brouille. Il a brouillé les relations entre frères en Christ. Il a brouillé les relations frères-sœurs dans l'Église. Il aime brouiller le message. Un homme de Dieu peut annoncer l'Évangile avec une grande clarté, l'émission est d'une clarté absolue. Et puis, le Satan vient brouiller au niveau de l'oreille de l'auditeur pour que l'auditeur entende les sons, comprenne les mots, mais n'en comprenne pas le sens. Il aveugle les gens. Alors, est-ce qu'il faut arrêter d'annoncer l'Évangile? Seigneur, c'est pas la peine, j'ai dit clairement, mais la réception est tellement trouble que la personne ne capte rien. L'Esprit de Dieu peut couper à travers le signal brouillé et peut toucher le cœur de la personne qui est ouverte envers Dieu. Et il peut couper l'œuvre du diable et faire pénétrer l'Évangile jusque dans la compréhension et le cœur de l'auditeur. Mais il n'y a que lui qui peut le faire. Donc il y a deux sujets de prière, quand nous témoignons, quand vous témoignez, deux sujets de prière. Seigneur, aide-moi à le dire clairement et courageusement. Et Seigneur, ouvre l'oreille et l'intelligence de mon auditeur pour qu'il puisse capter le message que j'aurai émis. Et l'aide du Saint-Esprit est indispensable au niveau de l'émission et au niveau de la réception. Parce que Satan aveugle les cœurs. Alors, il y a un verset 5 et 6, surtout verset 6, c'est un verset d'une très très grande beauté et d'une très grande profondeur. Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres ». Quand est-ce que Dieu a dit ça? La lumière brillera du sein des ténèbres, il a dit en Genèse 1, verset 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis au verset 3, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le Dieu créateur, après avoir créé les cieux et la terre, l'espace, il a appelé à l'existence la lumière. Avant, c'était les ténèbres complets partout. La lumière a jailli à sa parole. Un peu plus tard, il a établi le soleil et les étoiles pour marquer les temps et les saisons, la rotation de la terre et tout cela. Mais il a lancé la lumière, première chose, le premier jour, il a donné de la lumière. La lumière est primordiale. Ce même Dieu créateur a fait une deuxième grande œuvre, c'est l'œuvre de la rédemption. Et comme l'espace était totalement enténébré avant que Dieu ne dise que la lumière soit, il y a l'univers ici à l'intérieur de nous, c'est notre cœur, qui est aussi enténébré que l'espace avant Genèse 1:3. Et Dieu, le Rédempteur, dit une deuxième fois vis-à-vis de notre cœur que la lumière soit. Que la lumière soit dans le cœur de ces êtres humains, qui passent des ténèbres à la lumière, qui passent du péché à l'évangile, qui passent de la condamnation à la justification, qui passent de Satan à Dieu. La lumière de l'évangile, la lumière de la nouvelle naissance. Maintenant, regardez bien ce qu'il dit. Dieu a dit, la lumière brillera, il n'a pas dit là, au sein des ténèbres, c'est très important, mais du sein des ténèbres. Et vous dites, mais les ténèbres, ça ne peut pas donner la lumière. Non. Mais Dieu a fait jaillir la lumière du sein même, il a créé la lumière du sein des ténèbres, il a fait briller. Et dans notre cœur, du sein des ténèbres, notre cœur humain, il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Okay. Ça, c'est la nouvelle naissance. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Nous recevons la lumière de Dieu. Pour quelle raison et dans quel but? Regardez bien. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La lumière entre en nous, dans nos cœurs, par l'Évangile, et la lumière rejaillit de nos cœurs, c'est-à-dire la lumière du Saint-Esprit qui est en nous, rejaillit de nos cœurs pour éclairer la face de Christ. Autrement dit, les gens qui nous regardent nous connaissaient comme des gens inconvertis, avec un cœur plein de ténèbres, on était comme eux. Par la nouvelle naissance, par l'Évangile, par la régénération, nous recevons la lumière de Dieu. Par notre témoignage, cette lumière maintenant rejaillit du cœur et rejaillit sur la face de Christ. La lumière du témoignage du chrétien glorifie Jésus-Christ auprès des inconvertis. Et ça se traduit en termes un peu comme « Je ne sais pas ce que tu as, mais tu n'es pas comme tu étais avant. » Je ne sais pas ce que tu as, mais j'aimerais bien avoir ce que tu as. Ça, c'est quoi? C'est la lumière de notre cœur, produite par le Saint-Esprit, qui jaillit sur la face de Christ. Les gens ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais ils savent que ce que nous avons, c'est ce qu'ils voudraient. Nous, on dit, mais ce que nous avons, c'est Jésus-Christ. C'est une personne. Mais j'aimerais bien avoir ce que tu as, Dieu. Par transformation. Le sein des ténèbres qui devient une source de lumière, qui rejaillit sur la face de Christ et qui eut pour notre entourage, quelle transformation. Donc, si Satan aveugle les gens, nous, par notre témoignage, nous devenons source lumineuse. Et donc, pour ça, verset 7, Paul dit, mais cette grande puissance qui agit en moi, qui agit à travers moi, la puissance de Dieu, c'est elle qui fait le travail. Le ministère que je fais se fait par la puissance de Dieu. Je ne suis qu'un vase de terre. Un vase de terre, ça ne vaut pas grand-chose. Ça se casse facilement. Mais si vous avez un trésor, vous n'allez pas le mettre dans un vase de terre. Vous allez le mettre dans un vase en or. Dont la valeur rappellera un peu la valeur du trésor. Et Dieu, il a fait quelque chose d'inouï. Il a mis le trésor le plus grand, le Saint-Esprit, dans des gens aussi faibles qui valent aussi peu que nous, dans son corps humain. Vase de terre, fait de poussière de la terre, portant la personne de Dieu lui-même par son esprit. Et donc, il dit ici, Le messager n'est pas l'important, c'est le message. C'est pas le vase de terre qui est important, c'est le trésor qu'il contient. Et donc, le vase de terre, on peut le dépenser. Il est en consommable. Vous connaissez la différence entre des consommables? Par exemple, ces fameuses imprimantes ne valent pas grand chose, mais les consommables, c'est très cher, hein. Cette encre est très chère. Du papier, c'est du consommable. De la nourriture, c'est du consommable. Et nous sommes des consommables. Si vous mourrez, Dieu trouvera un autre serviteur pour continuer le travail. Et si vous tombez malade, Dieu trouvera encore un autre. Et Paul dit, et si je meurs, l'œuvre de Dieu continue. L'œuvre de Dieu ne tient pas à moi, ça tient à la puissance de Dieu. Il se sert de moi, je ne suis qu'un instrument, qu'un vase. Et donc, il veut dire, nous sommes pressés. Pressés, c'est comme extraire le jus d'un raisin, vous pressez. Réduire un tout petit espace, coincé, être réduit à l'extrémité. Nous sommes troublés, il dit. Nous sommes troublés, mais nous ne sommes pas coincés. C'est-à-dire que nous subissons des difficultés, des épreuves, des revers, nous traversons des épreuves, mais nous ne sommes pas immobilisés, nous pouvons encore agir pour le Seigneur. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Être dans la détresse, ça veut dire je n'ai plus de ressources. Je ne sais pas dans quelle direction aller. Il dit quelquefois, je n'ai plus rien, dit Paul. D'ailleurs, j'ai appris. Il a appris par expérience à être dans l'abondance, être dans la disette. Il a appris à avoir beaucoup de possessions, être presque dans le luxe, et à d'autres moments, n'avoir pratiquement rien. Pratiquement rien. Il a dit, j'ai appris à vivre dans les deux conditions. Mais être dans le désespoir, ça veut dire être perdu. Donc, ils peuvent dire, nous n'avons pas de ressources. Mais notre espérance est dans le Seigneur. Il dit, je n'ai pas de ressources, mais je garde mon espoir. C'est-à-dire, je garde ma joie d'être en Christ. Regardez tous les chrétiens persécutés qui sont au fond des prisons, qui meurent de faim, certains d'entre eux, qui sont battus. Comment se fait-il qu'ils témoignent aussi héroïquement de leur foi? Mais ils n'ont plus de ressources. Mais leur joie est intacte. Leur victoire spirituelle est intacte. Et leurs geôliers ont étudié l'être humain. Et ils ont appris que si vous privez un homme de nourriture, si vous frappez un homme, vous allez briser son caractère, il vous livrera tous ses secrets. Et ils ont dit, on n'a qu'à faire ça avec des chrétiens. Ils le font avec des chrétiens, et les chrétiens restent triomphants et joyeux. Ils disent, on ne comprend rien. Ça ne correspond pas à ce que nous a dit de l'être humain. Non, parce qu'ils sont habités par Dieu. Et quelquefois, ces persécuteurs eux-mêmes deviennent des chrétiens. À force de voir un chrétien héroïque et joyeux dans son tourment, ils disent, je ne sais pas ce que vous avez. Mais ce que vous avez, j'aimerais l'avoir. Parce que si on me traitait comme moi je vous traite, il y a longtemps que j'aurais craqué. Vous avez du ressort, vous avez quelque chose qui n'est pas humain. C'est quoi? Paul dit, nous sommes éprouvés, mais notre espoir est dans le Seigneur. Il dit, nous sommes abattus, persécutés, mais pas abandonnés. Être donc persécuté, molesté, maltraité, obligé de s'enfuir. Mais être abandonné, c'est bien pire, être délaissé, déserté et laissé sans aide. Paul dira ici, nous sommes maltraités, mais nous avons de l'aide qui vient du Seigneur. Ils sont abattus, mais non perdus. Être abattu, c'est être jeté à terre, mais dans un endroit plus bas. Mais être perdu, c'est être arrivé à la fin, être rendu inutile et inutilisable. Il dit, mais nous sommes dégradés, notre situation de vie se dégrade. Mais le Seigneur se sert encore de nous. Je pense à cet homme qui était compositeur de musique chrétienne, qui a fait beaucoup de cantiques. Et il a été frappé par une paralysie qui l'a mis au lit, les quatre membres paralysés, et bien sûr, est dans l'incapacité de parler. Mais avec sa fille, qui le connaissait bien, il pouvait bouger un doigt. Et ils ont établi un système, je ne sais pas exactement comment, mais avec son petit doigt qu'il pouvait bouger, ils avaient fait des signaux et il continue à composer de la musique. Alors qu'il était paralysé et sa fille à côté de lui pour noter les notes et tout cela qu'il donnait. Vous parlez d'être complètement réduit à l'extrémité, mais toujours utilisé par le Seigneur. C'est incroyable. Le Seigneur nous emploie toujours. Et donc, il dit dans les versets 10 à 12, nous mourons, mais nous amenons la vie aux autres. C'est un principe qu'on trouve dans l'agriculture. La mort rend possible l'éclosion de la vie. Vous avez un grain de blé, vous dites, ce grain de blé, je pourrais le manger. Et ça me nourrirait. Ou bien alors, je le jette dans la terre. Et le grain de blé va mourir. Mais il en produira 30, 60 ou 100 grains de blé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le garde pour moi, pour le manger? Ou est-ce que je l'abandonne à la terre pour en recevoir des multipliés? Vous et moi, nous sommes en train de dépenser quelque chose tous les jours, qu'on le veuille ou non, c'est notre vie. On a un certain nombre de jours que l'on va vivre. Il nous est impossible d'arrêter le cours de notre vie. Personne ne peut dire « halt ». Je veux prendre une année sabbatique sans vieillir. Laissez-moi avoir une année. Juste, je descends du manège et prendre du bon temps. Et je reviens et là, je reprends là où j'étais avant. Je veux dire, j'ai le même âge. Et voilà. On ne peut pas. Donc, nous sommes en train de dépenser notre temps. Tout le monde le dépense. Mais certains le dépensent, mais j'ai tellement peu de temps, mais je veux garder ce temps pour moi, je veux garder le temps pour mes plaisirs, pour ce qui me fait plaisir, pour mes intérêts, pour mon argent, pour ma retraite. Je veux garder, c'est des journées précieuses, mais je n'en aurai pas d'autres, mais attends, je n'ai pas profité, j'ai pas eu assez de plaisir aujourd'hui, il faut que... Ou alors, de toute façon, ma vie, je la dépense. Je ne vais pas la dépenser pour moi-même. Je vais l'investir dans d'autres. Et je vais vivre près du Seigneur et témoigner et vivre devant mes amis et mes connaissances de la vie du Seigneur avec l'espoir et même la certitude que cette vie du Seigneur, je vais pouvoir leur transmettre par ma manière de vivre. Ce qui fait que quand je serai vieux ou quand je serai mort, la vie de Christ va continuer à s'épanouir dans ces autres vies dans lesquelles j'ai investi du temps de ma vie. C'est le même principe que le fermier qui dit, au fond, c'est vrai, je pourrais manger ce grain de blé, mais tout compte fait, vu les lois de l'agriculture, je pense que je vais la confier à la terre. Je vais accepter de la perdre pour en avoir démultiplié dans quelques mois. Et le chrétien, l'apôtre Paul dit, c'est ce que je fais. Chaque jour, je perds un jour de ma vie. La mort agit en moi. Non seulement je vais vers la mort, mais je meurs à mes propres ambitions. Quand Paul se levait le matin, il ne disait pas, comment je vais pouvoir profiter de la journée pour avoir le plus de plaisir possible? Qu'est-ce que cette journée pourrait m'apporter en termes de sensations nouvelles? Non. Et se lever, comment je peux dépenser cette journée, puisque de toute façon je vais la dépenser. Comment pourrais-je la dépenser pour avoir le plus de fruits pour l'éternité? Et c'est comme ça qu'ils vivaient ces journées. Et donc, on fait une croix. On meurt à ses propres ambitions, à ses propres plans, à ses intérêts personnels. On meurt à ces choses-là. Et on se tourne et on vit pour les intérêts du Christ. Et il dit, la mort, je renonce à ma vie personnelle chaque jour, mais par mon action, la vie du Christ naît et se développe dans votre vie. La mort agit en moi, la vie agit en vous. Une maman qui met plusieurs enfants au monde, surtout à une grossesse difficile ou comme ça, peut avoir différentes maladies, peut avoir des faiblesses, peut aller à se faire opérer à l'hôpital. Et le médecin dit, mais madame, vous êtes en mauvais état. On doit retravailler un petit peu en vous pour réparer les dégâts causés par vos grossesses successives. Madame, vous avez pris 10 ans, 15 ans. Votre corps est dégradé. Et si cette femme ne pense qu'à son propre corps, elle va dire, ces maudits enfants qui m'ont enlevé de la vie, de la vigueur que moi j'aurais pu garder, regarder mon corps et dégrader. Le médecin dit que j'aurais des difficultés de santé à cause de ces enfants, mais c'est pas vrai, c'est pas possible, mais pourquoi je les ai eus? Ou alors elle dira, mais même quand je serai vieille puis usée, que mon corps est fatigué, j'aurai l'immense bonheur de voir ces enfants grands et forts et intelligents. Et je pense que j'ai laissé une partie de ma vie pour qu'ils aient la vie. J'ai multiplié ma vie. Je suis toute seule et j'ai donné naissance, j'ai contribué à 5, 6, 7, 10, 15, enfants. Et ces enfants vont avoir les petits-enfants. Et si j'avais voulu garder ma santé, mes droits et tout ça pour moi, j'aurais été un jour vieux et fripé, de toute façon. Mais j'aurais été seul, pas d'enfants, pas de petits-enfants. Mon corps n'aurait pas donné la vie. Et là, j'aurais vu la tragédie d'avoir vécu pour moi-même. Mais c'est la même chose. Il y a une relation parent-enfant. où celui qui reçoit le Seigneur se retourne et, comme d'autres l'ont fait pour lui, il réinvestit sa vie dans la cause du Christ pour que d'autres connaissent la vie de Christ. Et ce fait de passer sa vie à donner de la vie, à communiquer de la vie, c'est la meilleure manière possible de vivre. Donc on n'a aucun regret quand il dit « la mort agit en nous et la vie agit en vous ». Il n'est pas en train de se plaindre. Il dit une vérité spirituelle qui concerne tous les chrétiens qui donnent du temps et des talents pour le service du Seigneur. Ce n'est pas en vain. Nous allons prier. Notre Père et Dieu, merci pour ces instants et nous te prions de bénir la suite de ces études, que nous puissions continuer à comprendre ces grandes et belles vérités du service par Jésus-Christ. Amen.